Nous sommes dans ce temps très particulier entre l'Ascension et la Pentecôte. Et nous avons entendu comme évangile une partie du chapitre 17 de Saint Jean qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus juste avant de mourir. En fait, elle s'appelle la prière sacerdotale car Jésus est le seul grand prêtre. Et cette prière reprend le plan de la prière du grand prêtre dans l'Ancien Testament qui, lors de la fête des expiations du Yom Kippour, priait d'abord pour lui-même, ensuite pour ses collaborateurs, puis pour tout le peuple. Et nous sommes dans l'année B, et nous avons cette deuxième partie où Jésus prie pour ses apôtres. L'année A, il priait pour lui-même, et l'année prochaine, nous l'entendrons, qui priera pour nous, qui sommes ses disciples au XXIe siècle. Alors que demande Jésus dans cette prière sacerdotale pour ses apôtres ? Et accueillons aussi ces demandes de Jésus pour nous-mêmes, alors que nous sommes entre ce temps de l'Ascension et de la Pentecôte. Il demande, il me semble, trois choses. La première chose, il prie pour que ses disciples soient unis. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Il demande que ses disciples soient unis. Il demande que nous aussi, nous soyons unis les uns aux autres. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est parfois plus simple de se dire, on va se rassembler entre personnes qui pensent la même chose, on a la même liturgie, on a les mêmes idées, on vote de la même manière, politiquement. Ça serait tellement plus simple. Mais l'unité n'est pas l'uniformité. Jésus veut pour nous la même unité qu'il y a en Dieu. Or, en Dieu, il y a une différence. Le Père est différent du Fils. Le Fils est différent du Père. Et l'Esprit Saint, qui est cet amour entre les deux, est aussi différent de l'un et de l'autre. Et nous savons qu'en Dieu, il y a cette différence et cette altérité qui est nécessaire pour la communion. D'ailleurs, vous savez que Dieu, chaque fois qu'il crée, il crée en séparant. Regardez au début du livre de la Genèse. Il va séparer le ciel et la terre. Il va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il va séparer l'homme et la femme. Et à chaque fois qu'il sépare, ce n'est pas pour opposer, mais c'est pour entraîner une communion. La seule difficulté, c'est que à cause du péché originel qui est en nous, eh bien, nous avons du mal à vivre les différences entre nous. Et nous préférons parfois que les autres soient comme nous-mêmes, qu'ils pensent comme nous. Et vous voyez, dans le péché des origines, qu'est-ce qui s'est passé ? Satan est venu voir Adam et Ève et leur a dit « Mais si vous mangez du fruit, voilà, eh bien vous serez comme Dieu, vous serez semblable à lui. » Et quelque part, l'homme et la femme ont refusé cette différence d'avec Dieu, ils ont refusé la transcendance. Et puis alors c'est assez étonnant que le signe aussi du péché soit un fruit qu'il a fallu manger. Quand on mange un aliment, il devient nous, il est semblable à nous. Ça marche pour un aliment, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière pour une personne. Donc vous voyez finalement qu'à cause du péché, on veut qu'autour de nous, on pense comme nous, on soit tous semblables. Et nous ne sommes pas en fait des clones. Dieu nous a créés chacun de manière unique. Nous allons baptiser des enfants à la fin de la messe, et puis plusieurs aussi le week-end prochain pour la Pentecôte. Eh bien, la première chose, c'est que nous demandons aussi aux parents le prénom de l'enfant, parce que Dieu nous connaît chacun de manière unique. Et nous sommes tous différents, mais dans cette différence, nous sommes invités à vivre cette unité. Nous le savons, les différences sont une richesse. Et nous allons, dans 8 jours, fêter la Pentecôte. La Pentecôte, c'est... Il y avait plusieurs langues, les gens parlaient plusieurs langues, et tous comprenaient dans leur propre langue, car l'Esprit Saint lui-même est dialogue. Et la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Babel, au chapitre 9 du livre de la Genèse, où finalement, les hommes étaient réunis en un seul point, une seule langue. Ils construisaient une seule tour pour aller vers Dieu, comme par un seul chemin, alors que nous savons qu'il y a autant de chemins pour aller vers Dieu qu'il y a de personnes, car nous sommes tous différents. Alors, demandons dans nos familles, dans nos groupements, dans notre société, dans notre église, dans notre paroisse, de vivre véritablement cette unité comme Dieu le veut. Et nous savons que c'est l'Esprit Saint qui est la charité en Dieu, qui fait l'unité entre le Père et le Fils, qui pourra faire aussi l'unité entre nous. Faisons de nos différences une richesse et demandons à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à l'amour de Dieu, de nous unir les uns aux autres. C'est la première demande de Jésus. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Deuxième demande de Jésus dans cette prière sacerdotale. Garde-les du mauvais. Garde-les du mauvais. Jésus ne nous dit pas de nous garder du monde qui serait mauvais. Il nous dit de nous garder du mauvais, de nous garder de Satan. Et en fait, il dit, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Jésus est venu dans le monde. Dieu s'est incarné. Le monde est bon. Et vous savez qu'il y a deux écueils à éviter aujourd'hui, peut-être pour nous chrétiens. Certains qui diraient « le monde est mauvais, donc il faut qu'on vive en dehors du monde ». On vit en dehors du monde et puis on est entre nous justement, entre bien-pensants. Ou alors finalement, Jésus nous a voulu dans le monde, vivons dans le monde, comme tout le monde. Et finalement, Jésus ne nous en demande pas tant. En fait, vous savez que la vie chrétienne, elle est dans cet équilibre entre les deux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes appelés à aimer le monde dans lequel le Seigneur nous envoie, mais sans nous laisser contaminer, si j'ose dire, par l'esprit du monde. Nous sommes invités à tenir bon dans le monde. Et Jésus, justement, prie pour ses disciples, pour qu'ils tiennent bon dans ce monde d'aujourd'hui. Car ne nous leurrons pas, la vie chrétienne est aussi un combat. Et en nous, il y a cette lutte entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Il faudrait relire tout le début de la lettre de saint Paul aux Romains, où saint Paul rappelle que l'homme est esclave du péché, mais qu'il a été libéré du péché, de l'esclavage du péché par le sang du Christ et par l'offrande de Jésus sur la croix. Et que nous vivons justement de cette vie nouvelle maintenant par le baptême. Et dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, il nous dit « Vivons sous le souffle de l'Esprit Saint ». Et nous savons que pour lutter contre l'esprit du monde et pour vivre de cet esprit de Dieu, nous sommes invités à prendre les armes que le Seigneur nous donne. Nous en parlons souvent pendant le carême, pendant les 40 jours de carême, mais il y a aussi 40 jours de temps pascal. Et c'est important aussi de se dire, il n'y a pas que les 40 jours de carême où nous devons faire des efforts, où nous devons laisser l'Esprit Saint agir en nous, mais pendant tout ce temps pascal aussi, et j'allais dire tout au long de notre vie chrétienne. Les armes, nous les connaissons bien, je ne vais pas les détailler ce matin. La prière, les sacrements, vivre des vertus théologales, cardinales, mais aussi accueillir la parole de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit dans ce passage. Je leur ai fait don de ta parole. Mais le monde les a pris en haine. Pourquoi ? Parce que parfois la parole de Dieu, elle va contre l'esprit du monde. Or, nous savons que la parole de Dieu, elle est créatrice, elle nous renouvelle. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare en nous ce qui est bon et ce qui est mauvais. La parole de Dieu, elle permet le discernement aussi dans nos existences. Alors demandons, cette grâce, parce que Jésus prie pour cela, pour que nous ne tombions pas, que nous soyons gardés du mauvais tout en étant dans le monde, ne nous laissons pas contaminer par cet esprit du monde, mais vivons véritablement de l'esprit de Dieu. Troisième demande de Jésus dans cette prière sacerdotale, c'est la fin du passage. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Si Dieu nous veut unis, s'il veut nous garder du mauvais, c'est pour que nous soyons sanctifiés. Et vous savez que dans la Bible, être sanctifié, c'est être mis à part. Mais encore une fois, pas être mis à part pour vivre entre nous, mais être mis à part pour, parce que nous sommes mis à part, être, j'allais dire, comme le levain dans la pâte et faire grandir aussi le royaume. Être sanctifié, c'est être uni à Dieu. Sanctifie-les dans la vérité. Or, nous le savons, la vérité, c'est pas quelque chose. La vérité, c'est quelqu'un. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et Jésus prie pour que nous soyons sanctifiés en lui, en son Esprit Saint. Sanctifié. Sanctifié, ça veut dire aussi consacré. Sanctifié, dans l'Ancien Testament, ça voulait dire quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui appartient à l'autre, qui appartient à Dieu. Nous avons été consacrés, nous avons été sanctifiés, nous aussi, le jour de notre baptême, lorsque le prêtre a pris du saint crème et nous en a marqué sur le front. Et depuis ce jour-là, nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons à Dieu. Voyez, Jésus le disait dans la prière. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. » Il insiste. Nous n'appartenons pas au monde, même si nous sommes dans le monde. Nous appartenons à Dieu. Et vous savez que cette sphragis, comme on dit en grec, qui est ce signe de notre appartenance à Dieu, eh bien, c'est ce qu'on disait dans l'Antiquité, les brebis étaient marquées aussi au fer rouge pour dire qu'elles appartenaient au berger, ou le soldat romain lui était marqué pour dire qu'il appartenait aussi à l'armée. Ah. Et nous aussi, nous avons été marqués par cette marque indélébile, car le sacrement est un sacrement à caractère, le sacrement du baptême, qui nous marque et qui nous consacre à Dieu et qui fait qu'on appartient à lui. Nous sommes consacrés, nous sommes sanctifiés, nous appartenons à Dieu, et on pourrait dire aussi que nous sommes réservés à lui. Nous consacrons aussi une église, une dédicace d'église. L'église, elle est consacrée. On n'imagine pas faire n'importe quoi dans une église. Nous allons prendre un calice, une patène, des objets liturgiques qui ont été consacrés. Ils sont réservés au culte. Eh bien, nous aussi, par notre baptême, nous sommes consacrés, nous appartenons à Dieu. On peut dire que nous sommes réservés pour lui, pour le louer, pour le chanter. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, voilà ce que nous dit saint Paul. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps, » quand saint Paul parle du corps, c'est toute la personne, c'est pas uniquement notre enveloppe charnelle. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps, votre personne, est un sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, le jour de notre baptême particulièrement. » Et il continue, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. » Oui, voilà cette triple demande de Jésus entre l'Ascension et la Pentecôte, alors que les apôtres sont rassemblés au Cénacle pour prier et invoquer l'Esprit Saint. Jésus prie aussi pour nous, pour que nous soyons unis, pour que nous soyons gardés du mauvais et pour que nous soyons sanctifiés dans la vérité. Amen.